Zola est entouré d'une légende d'ignominie qui s'atteste par ce livre de Grand Carteret où on voit son visage associé à celui, si je puis dire, d'un porc assez devant. Ça avait commencé de bonne heure. Dès 1868, l'écrivain Louis Ulbach disait de Zola qu'il était l'inventeur de la littérature putride, et un critique célèbre, Pontmartin, qui travaillait à la Gazette de France, qui était le grand journal bien pensant de l'époque, disait de lui, c'est un travailleur de nuit à grosses bottes. Vous avez compris, travailleur de nuit à grosses bottes, ça signifie un négocier, peut-être bien même un vidangeur. On sait moins aujourd'hui qu'Anatole France, qui dira des choses grandes et nobles sur Zola après l'affaire Dreyfus, Anatole France avait commencé par parler de lui avec une extrême violence. En 1887, lorsque Zola avait publié La Terre, France a fait dans Le Temps une déclaration d'une violence inouïe. Que voici. Jamais homme, disait Anatole France, jamais homme n'a fait un pareil effort pour avilir l'humanité, insulter à toutes les images de la beauté et de l'amour, nier tout ce qui est bien, tout ce qui est bon. Il ne s'en tenait même pas là, il avait ajouté cette phrase que je trouve pour ma part assez stupéfiante. Monsieur Zola est un de ces êtres dont on pourrait dire qu'il serait meilleur qu'il ne fût pas né. Eh bien, c'est de ce personnage assez horrible et en tout cas maladroit que je voudrais tenter avec vous l'approche. J'ai été amené à Zola, pas par la littérature, mais par l'affaire Dreyfus. Je m'occupais de cette affaire Dreyfus, essayant de comprendre cette espèce d'énigme qui aujourd'hui encore reste si obscure, et je me suis aperçu du rôle extraordinaire qu'avait eu Zola en 98. J'ai voulu comprendre ce qu'il avait fait. Il me semblait que se révélait là un homme d'un format pas ordinaire. Et c'est à cause de l'affaire Dreyfus, à cause de J'accuse, à cause du courage que Zola a développé dans cette histoire, que j'ai essayé d'étudier. Et bien, voyons d'où il sortait, cet homme. L'écrivain Jacques Bainville, disait de lui, ce demi-italien, quart de grec, trois ou quatre fois métis, n'est pas un bel échantillon de l'humanité. Si Bainville voulait dire que le père de Zola n'était pas français, c'est exact. L'ingénieur François Zola, qui creusa le canal d'Aix, qui était un ami de Thiers, était né effectivement à Venise en 1895. Et il avait épousé une jeune fille grecque, qui était née à Corfou. Mais du côté des entrailles d'où il sort, Zola appartient à la petite plèbe française. Sa grand-mère était couturière à Dourdan, dans la Beauce, quand il y épousa un vitrier qui s'appelait Aubert. On peut dire que par les entrailles d'où il sort, il appartient à la même race humble et forte que celle de Peggy. C'est un garçon qui n'avait pas eu de chance au début de sa vie. Une dure enfance, une adolescence de Peggy. En 47, il était né en 40, en 47, il n'a même pas 7 ans encore, il est né en avril 40, c'est en mars 47, son père meurt. Ce père, nous le connaissons peu, cependant, nous avons un tableau. Un tableau qui a été fait à Aix, il était donc, je vous l'ai dit, ingénieur, il faisait le canal. Un tableau assez somptueux, on voit que ces gens étaient aisés puisqu'ils posaient devant le peintre. Il y a donc le père, la mère et le petit. Regardons un instant ces visages. Il y a le père, Émile Zola, qui a le poing sur la cuve. Il est très redressé, qui a l'air assez fier de lui, un regard gentil et direct. À côté, on voit la maman, qui est jeune à ce moment-là, 26-27 ans, et elle paraît un peu plus vieille que ça sur la toile. Elle a des bandeaux à la George Sand. Elle a un beau camé sur sa robe, qui paraît une robe de soie noire. Elle a les yeux à fleur de tête. Ce qui frappe, c'est le visage du petit garçon à côté. Un drôle de visage, sans bonheur, enfin, comme s'il s'attendait confusément à ce que la vie ne soit pas bien pour lui. Cette image, elle doit être de 46, enfin, l'enfant avait devant lui 6 ans. Mais regardez cet œil. Il y a un œil, c'est l'œil gauche. Il pend un peu. Il y a cette bouche, avec une moue. Il a beau être, comme on dit sur 131, il est dans tous les atours avec son petit manteau de velours et sa fourrure. Il y a là, je ne sais quelle curieuse tristesse, cet enfant. Eh bien, effectivement, son père va donc mourir. Il est peut-être trop petit, à 6 ans et demi, pour mesurer ce que c'est qu'un deuil. Mais en tout cas, il y a une chose qu'il voit tout de suite, c'est que l'aisance dans laquelle on était, dans la famille, va se transformer en difficulté, en gêne, et bientôt en détresse. On peut suivre à la trace leur déménagement perpétuel. Presque tous les ans, ils changent d'appartement. Et on descend, parce que on va aboutir, quand il a 16 ans, je crois, on va aboutir à deux pièces absolument obscures qui donnent sur un boyau noir, une espèce de déversoir d'immondices qui est le long des remparts de la ville. On les écarte là-dedans, parce que l'ingénieur de là, très gentil pour sa femme, avait fait venir pour vivre avec eux, il était riche, il était aisé, il avait fait venir le grand-père, la grand-mère. Alors il y avait donc le petit et Nicolas, sa maman, le grand-père, la grand-mère qui vivaient dans cette maison. Et à 17 ans, 57, Zola voit mourir cette grand-mère. C'est un coup dur pour lui. Il l'aimait beaucoup, il ne l'avait jamais quitté. Et cette fois, il a 17 ans, il peut mesurer ce que c'est que la mort. Il écrira plus tard au souvenir de ce malheur, on était quatre et un pouce crevé. On restait trois à grelotter de misère. C'était donc sa mourir. C'était seul, plus jamais. Sa mère se persuade qu'il pourra vraiment faire de bonnes études que s'il va travailler à Paris. C'est une idée comme ça, la fascination de la capitale. Alors en 58, en mars 58, elle décide de l'envoyer faire ses études au lycée Louis Grand à Paris. C'est pas raisonnable en cours d'année, puisque vous savez, en France, les études commencent au mois d'octobre, et c'est au mois de mars 58 pour le mettre brusquement en classe de seconde au lycée Louis Grand à Paris. Il est très malheureux à Paris. Ça ne va pas. D'abord, il n'y connaît personne, c'est un peu effrayé, c'est un garçon timide et gauche, pensif et maladif, dira lui Cézanne, qui était un de ses camarades de Provence. Les garçons du lycée Louis Grand à Paris se moquent de lui d'abord à cause de sa gaucherie, et puis parce qu'il a beaucoup vécu dans cette Provence. Il n'est pas né en Provence, il est né à Paris, mais il a été tout de suite à Marseille, à Aix-Marseille, il y a pris l'accent. Alors cet accent méridional, ben, ça fait rire les garçons de Paris. En plus, il a une difficulté de parler, donc il ne rira jamais. Comme on dit, vous avez un cheveu sur la langue. Alors il dit mon petit chien, il dit mes cheveux, enfin pour dire son chien et ses cheveux. Et les garçons se fichent de lui, ça lui est pénible. Il attrape une typhoïde terrible dans l'année 58-59, dans l'hiver. À ce moment-là, on ne savait pas, vous voyez, comme aujourd'hui. Il a plus de deux semaines de délire. Sa mère se demande s'il ne va pas mourir. Il s'en tire, mais il s'en tire mal. Il est vraiment très diminué. Et puis voilà qu'au printemps 59, son grand-père meurt. Deuxième, même quoi, troisième rencontre avec la mort. Et il va se présenter dans ses mauvaises conditions physiques et morales au Bachot. Eh bien, il avait fait tout ce qu'il avait pu. Il travaillait de son mieux. C'était pas un aigle, c'était pas un garçon éblouissant, appliqué surtout. Il passe les cris, mais il échoue alors. Alors il se persuade qu'après tout, s'il avait pu rester à Aix, peut-être que le Bachot était plus facile à Aix qu'à Paris. Alors il demande à sa mère de lui donner l'argent nécessaire pour aller tenter l'oral du baccalauréat, à Aix. Il se présente à son oral d'Aix, il échoue. Par conséquent, il a complètement raté, puisque vous savez, quand on échoue une seconde fois à l'oral, c'est fini, il faut tout recommencer. Or, ce pauvre garçon était boursier. Bien sûr que sa mère n'aurait pas pu payer elle-même les études à Paris, il avait obtenu une bourse pour lui. Eh bien, on ne renouvelle pas la bourse à quelqu'un qui s'est fait en deux fois au baccalauréat. Alors, c'est fini. Les études de Zola vont s'arrêter là. Une chose qu'on ne sait pas d'ordinaire et c'est intéressant, ce Zola, un grand écrivain, qui savait ce que c'était que le style, qui s'appelait lui-même un poète, ne sera jamais un bachelier. Un de ses camarades qui s'appelle Baille, ses deux meilleurs amis, c'était Baille et Cézanne. Un de ses camarades Baille, il écrit, je me rappelle qu'au mois de janvier 60, il lit, tu vois, je vais avoir 20 ans, il aura 20 ans le 2 avril, je vais avoir 20 ans et je suis encore à la charge de ma mère qui ne peut à peine se suffire à elle-même. Donc il n'y a qu'une chose à faire, c'est de se débrouiller pour trouver, comme il pourra, une situation, n'importe quoi qu'il fasse vivre. On cherche, on tâtonne, fait des tas de démarches, présent dans l'état de bureau, on ne veut pas de lui, pas de diplôme, il n'a rien. Enfin, il va trouver le 1er avril, donc la veille de ses 20 ans, c'est le 2 avril, le 1er avril 60, il va trouver une place de scribe, enfin de grave-papier, dans un truc qu'on appelait les docks de la douane. C'était situé près du château d'eau, c'est-à-dire près de la gare de l'Est, et le tout petit et misérable appartement où il vivait avec sa mère était dans le 5e, rue Saint-Jacques. Il est payé une somme qui correspond au pouvoir d'achat aujourd'hui de 180 francs suisses. Voilà ce qu'il a par mois. Alors naturellement, il ne peut pas vivre. Il va et il revient de son bureau, et c'était loin de la rue Saint-Jacques jusqu'au château d'eau. Il va et il revient à pied, pour voir que nous l'avons vu. Sa mère lui donne le matin un casse-croûte qu'il mangera sur place, travaille tant qu'il peut, mais enfin, impossible de continuer parce que véritablement, il n'est pas nourri. Alors, au bout de deux mois de ce travail-là, il va abandonner, il va démissionner. Et démissionner, c'est bien joli, c'est immense tout de même. Il va faire un coup de tête. Ce Zola de 20 ans, nous le voyons. Pour la première fois, nous avons une photographie de lui. C'est intéressant de le voir. Il est très blême. Il a un petit collier de barbe. Il se tient devant l'objectif, redressé, oh, pas fendant, pas insolent, non, bien droit, simplement. Il a l'air d'un étudiant de province, assez pauvre, mais résolu. Et bien, c'est le garçon qui décide de ne pas continuer au doc, vous vous rendez compte, après, il n'y avait pas moyen de vivre avec ça. Et là, il va faire un coup de tête. Lui, qui avait toujours habité avec sa mère, qui ne l'avait jamais quitté, décide de la quitter. Et pourquoi? Oh, il lui donne comme raison qu'il écrit. Et en effet, il écrit des vers depuis qu'il a 16 ans. Il écrit, il a besoin de solitude, d'être absolument tranquille. Entendu, c'est vrai, il a besoin de solitude. Mais en fait, ce qu'il veut, c'est ne plus rester à la charge de sa mère, parce qu'il en a assez de l'avoir perpétuellement se priver pour que lui, il mange. Il va faire pendant 2 ans une expérience de la misère dont je crois qu'aucun autre écrivain français n'a fait l'expérience. Je sais bien que Chateaubriand, par exemple, lorsqu'il a débarqué en Angleterre comme émigré en 92, a connu cette extrême misère pendant quelques semaines. Pour cela, ça va durer 1 an et demi, 2 ans. Où ce garçon va vivre, on ne sait trop comment, enfin, collant des enveloppes, faisant des bandes, essayant de placer misérablement des articles qu'on lui paye à peine. Il va vivre d'une manière extrêmement pénible, avec des semaines dans l'hiver où il ne se lève pas parce qu'il a trop froid, alors au moins dans son lit il a un peu chaud. Il se nourrit avec du pain trempé dans l'huile. Enfin, c'est terrible. Et bien, c'est pendant cette année 60-61, donc l'année de sa 21e année, où va se passer dans sa vie, surtout dans sa vie intérieure, un événement que je voudrais bien vous faire comprendre parce que les conséquences en ont été énormes, démesurées. Ce qui frappe quand on regarde les quelques lettres d'adolescence que nous avons lues à Cézanne Wabal, ce qui frappe, c'est ce garçon de 16 ans, 18 ans, 20 ans, une extraordinaire candeur, en fait, si vous voulez, une pureté farouche. Un garçon qui ne faisait pas du tout la note, un garçon qui s'écartait des filles, qui les respectait, qui avait décidé, et il l'a fait, de rester vierge pour celle qu'il était. Quand on parlait avec Baille et les camarades, quand on parlait en Provence des filles de Paris, ils en parlaient la tête pleine de la dame aux camélias, de Marion Delorme, l'histoire des prostituées qu'on relève par l'amour. Il y a même là une phrase de Zola que je voudrais vous citer tellement, elle est enfantine mais gentille. Nous demandions à Dieu de nous envoyer une âme flétrie pour la lui rendre jeune et blanche de notre amour. Voilà ce qu'il écrivait au garçon à 18 ans. Eh bien, l'histoire pathétique, en somme, c'est qu'il va jouer au naturel, cette aventure de Tolstoï, cette aventure de résurrection. Comment ça se passe? Dans l'hôtel sordide, misérable, de garni, où il était rue Soufflot, à Paris. Il avait acheté un croque-mort, il avait fini en carte. Mais justement, il y a une prostituée. Dont nous savons aujourd'hui qu'elle s'appelait Berthe, il va l'appeler Laurent, dans les bouquins qui se consacrera à son aventure et qui l'appellera la confession de Claude. Cette Berthe, une nuit, elle a eu, je sais pas quoi, une espèce d'attaque de conviction, elle s'est mise à se tordre sur son lit, sur son tout l'hôtel, naturellement, est sorti, on peut se dormir avec le bruit qu'elle faisait. Dans la nuit aussi, on lui a mis de l'eau sur la figure, du vinaigre, on a tapoté. Et puis, on est arrivé à la calmer. Zola, par gentillesse, peut-être aussi par un autre sentiment obscur, se propose pour la veiller. Alors elle est là, sur son lit, qui dort maintenant, et Zola est assis sur une chaise, attendant qu'elle travaille. Travaille, en effet, le matin, elle voit ce jeune garçon, que je vous ai décrit tout à l'heure, près de son lit, elle le récompense, bien sûr, comme elle pouvait le récompenser. Eh bien, Zola a le sentiment que cette prostituée qui s'est donnée à lui, il ne faut absolument pas qu'il la traite comme les hommes font, les prostituées, c'est-à-dire la payer et s'en aller. Il pense que c'est une fille, c'est un être humain, c'est une âme comme lui, et que si on lui expliquait bien les choses, elle pourrait peut-être comprendre et sortir de cet enfer dans lequel elle est en train de vivre. Alors il lui explique tout ça à cette fille, qui ne comprend rien, parce qu'elle est absolument abasourdie. Il lui dit qu'il ne la quittera pas, qu'il veut s'occuper d'elle, il essaye de lui expliquer qu'il y a moyen même où elle est de refaire une vie droite, et d'avoir un foyer, d'avoir des enfants. Il se propose, vous entendez, c'est exactement ce qu'il a fait. Lui qui gagne rien, enfin, il fait ses vers, ça se vend pas. Offre à cette fille de vivre avec elle pour de bon. Enfin, d'abord, elle a commencé par être stupéfaite, puis peu à peu, elle l'a trouvée assommante. Enfin, c'est bien sa chance. Enfin, elle est tombée sur une espèce de cinglé qui lui pleure dans le cou, qui lui raconte des histoires d'autre monde. Enfin, s'il était raisonnable, il ferait des sous pour essayer d'emmener au bal. Mais lui, il est là, qui lui explique torrentiellement, la tenant dans ses bras, tout ce qu'on pourrait faire de bien. Et naturellement, ce qui se passera, c'est très facile à prévoir. Enfin, dès qu'elle est bien et qu'elle s'est amusée avec lui un moment, elle le laisse tomber pour trouver quelqu'un de plus agréable et qui l'a sorti. Le résultat de cette aventure va être assez terrible pour lui. D'abord, vous voyez qu'il a fait, comme on dit, une éducation sentimentale, d'un seul coup, et à toute vitesse. Et il va dire, toute la saleté humaine s'est dressée devant moi. Et comme c'est un garçon clairvoyant, il se juge parfaitement. Il sait très bien que s'il s'est intéressé, comme il dit, à cette âme, elle lui est parue moins intéressante, elle lui est habitée ce corps, il est mauvais. Alors il va écrire, en un texte bientôt, ceci. Tout le départ enchanté vers le pays des nobles tendresses sous le coup de fouet de l'instinct génétique. D'autre part, une espèce de colère, de fureur lui est venue contre les menteurs en littérature. Et ça, c'est important parce que justement, il voudra celui qui ne ment pas. Qu'est-ce que c'est les menteurs pour lui? Ben, c'est les gens à la Musset ou à la Murgère qui parlent des prostituées en les appelant, comme on disait à ce moment-là, les grisettes. Ces filles qui habitent toujours dans des mansardes en littérature, ensoleillé, de gentil.
Non, ça ardouilla sur le bord de la fenêtre, déjà, il y a une idée, des fleurs, enfin, tout est ravissant. Et il écrit maintenant, je sais parfaitement ce que c'est qu'une vraie mansarde, et combien c'est hideux. Et parlant de ces écrivains, qui parlent de rayons les démons de la adolescence, et qui nous parlent de belles amours, il dit aussi, ils essaient de me faire prendre des ordures pour des pierres. On a plusieurs textes de lui à ce moment-là, où on le voit, comment dire, écartelé, divisé. Je voudrais vous apporter la trois citations, voilà une d'abord. J'ai deux existences parallèles, écrit-il. Une ici-bas, dans ma misère. L'autre dans la profonde pureté du ciel bleu. Deuxième citation. La réalité est affreuse. Elle nie toutes ces choses, grandes et pures, dont l'amour ne veut pas mourir en moi. Et troisième citation. J'ai en moi à la fois un âpre besoin du réel et l'impossibilité de renoncer et de dire adieu aux espérances du rêve. Alors la conséquence de ça, pour lui qui est un écrivain, c'est qu'il va justement se poser la question de savoir ce qu'il doit écrire. Une idée, une espèce de fondation lui est venue. Pénétrer, dit-il à propos de Verne, pénétrer les causes de sa chute et tâcher de trouver un remède à chaque plaie de son cœur. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire cette fille, cette roulue, en fait, cette prostituée, qui est devenue cet être avili. Elle n'a pas pu rester comme ça. Elle a été forcément, vous savez, un petit enfant tout pur avec le ciel dans les yeux. Et bien, quelle est donc la route qu'elle a parcourue? Est-ce que c'est sa faute qu'elle est comme ça? De quel milieu sort-elle? Ses parents, c'est avec une star sur eux qu'ils lui ont donné. Quels exemples a-t-elle vu? Quelle atmosphère a-t-elle respiré? T'entendu, il y a, comme on dit toujours, la faute originelle qui explique beaucoup de choses. Et il y croit à ce moment-là. Mais à côté de cette faute, des responsabilités sociales, des maux qui ne sont pas forcément incurables. Et qui t'emmène, le cas particulier, cette bête, qui pense à nous tous, enfin à la créature humaine, qui, rien qu'en vivant, s'avilit. Nous aussi, n'importe qui, on a été pur au début. Et on est devenu cet être plein de mauvaiseté et de nuit. Alors il se perçoit qu'il y a un immense inventaire à faire. Le chemin parcouru par nous tous pour comprendre où nous en sommes arrivés. Comment ça c'est rude, c'est difficile. Et il écrit positivement. Je n'ose pas encore payer toutes ces misères. Et il a même le sentiment qu'il y aurait une autre voie possible, quelque chose de beaucoup plus conforme à son tempérament. Il dit, la phrase que je crois savoir par cœur, il dit ceci. Ce n'est pas en montrant brutalement son mal à un homme qu'on le guérit. Mais c'est en lui montrant le bonheur qu'il aurait goûté s'il avait suivi la bonne route. Là, ça, c'est qui est vraiment son tempérament essentiel. Alors la première chose qu'il va écrire, et on ne le sait pas aujourd'hui, on l'oublie, son premier livre, 1864, il a donc 23 ans quand il l'écrit, 24 ans quand il le publie, c'est les contes aminants qu'il appelle ses belles histoires de sagesse et de charité. Ce nom propre, Ninon, c'est bien un peu de sa part du respect humain. Il ne veut pas donner aux gens l'impression qu'il est quelqu'un sans amour. Alors Ninon, pour les lecteurs, on a l'impression que c'est une amoureuse gentille et pure qu'il aurait laissée en Provence. Nous sommes renseignés, il n'y avait personne. Du reste, regardez bien la préface. Comment la définit-il, cette Ninon? L'ange de mes solitudes, mon bon ange gardien. Eh bien, c'est rien d'autre que son âme d'enfant, son âme d'adolescent. Et il dit, Ninon, tu ne sais pas comment va le monde. Les fleurs, ils sont malades, et bientôt peut-être les cœurs seront morts. Et bien lui, il veut empêcher les cœurs de mourir. Alors c'est pourquoi il invente ces histoires qui sont en effet si simples et si gentilles. La première thème, Simplice. Simplice, c'est justement l'histoire d'un cœur simple. La troisième histoire s'appelle Sœur des pauvres. Et Sœur des pauvres, c'est l'histoire d'une petite fille pour laquelle la Sainte Vierge avait fait un miracle. Enfin, incroyablement peu Zola, au sens où nous entendons ça aujourd'hui. D'ailleurs, il se reproche un peu. Il a l'impression que c'est trop facile, en fait, que c'est trop dans son tempérament à lui. Tu fuis le réel, se dit-il à lui-même. Alors, à l'intérieur même de ces contes d'animaux qui sont en effet peut-être un peu bleus ou un peu roses, il va mettre une histoire noire et rouge. Elle s'appelle Le Sang. C'est l'histoire de trois soldats, de trois déserteurs, qui ont déserté parce qu'ils ont vu ce que c'était que l'atrocité de la guerre. Et au milieu de cette histoire, il y a une page, pour moi, inoubliable, qui est une évocation du calvaire. L'année suivante, il y a 25 ans donc, il va écrire La Confession de Claude, encore un bouquin de lui qu'on ne lit pas, et on a terriblement peur. On ne lit pas les contes animaux, on ne lit pas La Confession de Claude, et pourtant c'est le livre clé. C'est le livre où il va raconter, en la transposant à peine, son histoire avec Berthe, qu'il appellera Laurent. L'impitoyable survie de cet être, dit-il. Et cette bouche froide, ce front dur, cette détermination de ne pas me répondre, de ne pas m'écouter. Je me suis déchiré à vouloir me faire entendre d'une âme morte. Ce livre lui plaît à lui parce qu'il peut y concilier ce double tempérament que j'essayais de définir tout à l'heure. Vous savez, l'âpre besoin du réel et les espérances du rêve. Alors l'âpre besoin du réel, ben nous l'avons dans ce texte-là parce qu'il représente Berthe telle qu'elle était, son milieu de prostituée, et les espérances du rêve, c'est l'âme de ce Claude qui est lui-même ému. Sans livre qui ne mordra pas son public, n'aura pas de succès. Et l'année suivante, Zola va prendre sa détermination. Il va écrire son premier livre entièrement noir, qui est Thérèse Raquin, et c'est l'année suivante, 68, ça lui fait 28 ans, il commence à dessiner le cadre général de ce qui sera son grand œuvre, quoi, c'est Rougon-Macquart, Histoire naturelle et sociale d'une famille sous le Second Empire. Il prévoit à ce moment-là 10 volumes, et ça aura, vous le savez, 20 volumes. Il est parti. Il est parti dans la direction du réel le plus brutal. Il veut faire, si je puis dire, du super Balzac. Balzac lui aussi avait été un réalisme, mais retenu par des prudences, par un respect des convenances. Ben lui, rien. On dira tout, dit-il, et tant pis pour l'odeur. Alors le garçon va s'acharner. Travailleur extraordinaire. Il s'est marié à 30 ans, en 1870. Il a épousé une fille qui s'appelle Alexandrine Melet. C'était la deuxième femme qu'il avait eue dans sa vie, et il l'a gardée. Elle l'a bien voulu rester, c'était pas une prostituée. Il vit avec elle et sa mère à Paris, mais il n'est pas du tout parisien. À Paris, c'est directement au Batignolles. Batignolles, à ce moment-là, c'était un quartier presque champêtre de Paris. Ils ont là un petit pavillon avec un jardinier où Madame Zola élève des lapins. Et lui, il s'enferme. Il travaille toute la journée. Il a beau travailler, ça rapporte très fort. Pensez donc en 75. Il y a déjà 13 ans, 12 ans qu'il écrit. Eh bien, on sait ce qu'il a gagné, si ce n'est ses comptes. Il avait gagné, en 12 ans, avec ses volumes, une somme équivalente à 3500 francs suisses aujourd'hui. En 12 ans. Alors, c'est pas comme ça qu'il pouvait faire vivre son foyer. C'était donc le journalisme qu'il aidait. Il plaçait des articles de critique picturale, il avait voulu défendre Monet, et de critique littéraire. Dans tous les journaux où on voulait bien accepter sa prose. L'événement, le Figaro, le Salut Public à Lyon, il fallait plus de pas. C'était ça, positivement, son gagne-pain. Mais c'était pas ça qui l'intéressait. Ce qui l'intéressait, c'était les romans. Il va même redonner un nouveau groupe, un nouveau recueil de contes, nouveaux contes animaux. Et c'est dans la préface, ce nouveau conte, qu'on l'entend dire, gentiment et tristement, je me suis enfermé, pour ne mettre que le travail dans la vie. Et je me suis si bien enfermé, que personne ne l'a dit. Le déclic va se produire l'année suivante, en pas de 20 ans, en 76. Cette année-là, Zola va lancer l'Assommoir. Et c'est l'Assommoir qui va catapulter son nom aux élites de la gloire. Jusqu'à 75, rendez-vous compte, les gens connaissaient pas le nom de Zola. On a les tirages. Eh bien, il n'avait pas vendu 900 exemplaires du premier livre des Rougon, qui s'appelle La Fortune des Rougon. Le Ventre de Paris, qui aujourd'hui nous paraît un bouquin illustre de lui, n'était pas arrivé à écouler la deuxième édition. Et la faute de la Demouret, qui est le cinquième livre des Rougon-Macquart, à peine 1700 exemplaires vendus. Avec la Sommoire, au contraire, cette fois, c'est la grosse vente. J'ai fait un livre, dit-il, le premier livre, j'ai fait parler le peuple comme il parle, et c'est un livre qui a l'odeur du peuple. C'était écrit dans une langue directe et brutale, et le livre en effet a eu justement succès. Alors l'éditeur Charpentier, qui avait misé sur Zola, s'aperçoit qu'il a eu raison, c'était un bon cheval. Et Charpentier va faire pour lui ce qu'on avait encore jamais fait au 19e siècle, une publicité murale. Vous savez, on lançait les romans à ce moment-là comme on les lance aujourd'hui, c'est-à-dire en faisant la publicité dans les journaux, quoi, les placards publicitaires. Pour Lamartine, dans Les Girondins, pour Victor Hugo, dans Les Misérables, les éditeurs avaient essayé des publicités par affiche dans Paris. Et bien Charpentier va faire le même coup pour le Nana que Zola va lancer en 80. Les Parisiens vont être assourdis par ce nom de Zola. Ils crient de tous les murs. Il y a des affiches dans les années 12, dans les bateaux mouches, il y a même des affichettes, ça fait toutes ces petites, ça, dans les bureaux de tabac. Le résultat, c'est que le jour où Nana est mise en vente, 55 000 exemplaires. Exactement, hein, 55 000 exemplaires sont vendus le jour de la mise en vente. Et quand à ce moment-là, l'auteur touchait 50 centimes or par bouquin, vous voyez que cela commençait à gagner sa vie pour de bon. En plus, Charpentier lui avait dit, mais il y a encore moyen de gagner plus, c'est-à-dire de publier vos bouquins, d'abord en feuilleton dans les journaux et ensuite en volume. Et on sait que l'Assommoir lui avait rapporté une somme équivalente à 3 millions de francs français d'aujourd'hui en feuilleton, et Nana lui rapportera 6 millions en feuilleton. Alors cet homme qui avance beaucoup, il profite de la vie. Alors il n'a pas de vice, mais il a un gros défaut, je suis d'accord avec vous. Il est vorace. Je vois dans ses lettres, quand il est en 77 pour la première fois, ayant de l'argent, il avait offert à sa femme et à sa mère un voyage. Il était allé à l'Estac, entre Toulon et Marseille. C'est assez drôle et même un peu pénible de voir que Zola, un poète romancier, est pas très attentif à ce qu'il voit dans l'Estac, dans la mer, qui l'intéresse, c'est la nourriture. Il dit à Flaubert, à l'Estac, il y a une nourriture du tonnerre de Dieu. Et il dit même à Huysmans, il y a là-bas des certains plats de coquillages dont je bats, écrit-il avec un véritable attentissement. Ben, le résultat, c'est qu'il aura 106 kilos, en 1886. On se moque beaucoup de lui. Jean Richepin dit qu'il a une figure qui est une pleine lune de Saint-Denis. Alors cet homme qui sait ce que fait que la volonté décide de se faire maigrir. Et peu à peu, d'année en année, à cause de ce régime qui s'impose, de presque rien manger, deux biscottes le matin, pas de spéculant, pas de pain à midi et pas de repas le soir, deux tasses de café, deux tasses de thé, et bien le résultat, c'est qu'il passera de 106 kilos à 100, à 90, à 80, à 70, comme on dit, et il va s'établir à 67 kilos et il a 1,69 kg, c'est un homme peu volumineux, tel qu'il décrira dans sa vie secrète au cours de ces années-là. Deux drames étaient produits. L'un en 1880, la mort de sa mère. Elle n'était pas vieille, elle avait 60 ans. Il ne l'avait donc jamais quittée, même, vous savez, quand il était rétabli au cours de sa 20e année dans cet hôtel de la route Soucou et dans bien d'autres, il allait la voir quand même tous les jours. Et voilà que brusquement, en 5 ou 6 jours, elle est emportée par une pneumonie. C'est un coup terrible pour lui. Pour en juger, lisez le livre qui s'appelle La joie de vivre. C'est un livre qui, dans son programme, il avait un programme très niché, très strict, arrivait pour l'année 1881. Dans sa pensée, c'était un livre autobiographique. Il voulait transposer naturellement, raconter sa vie. Et maintenant, il a le sentiment qu'il n'aura pas le courage de raconter ce que ça a été que la mort de sa mère. Alors, il a chamboulé son affaire. Il avait décidé qu'il écrirait un livre autobiographique du tout ça. Il met à la place le plus faible, à mon avis, des romans macabres, qui est Le Bonheur des Dames. Et en 82 seulement, il va tenter d'écrire ce livre en se forçant, en sachant bien qu'il sera malheureux. Il l'écrit. Et savez-vous entre quel titre il va hésiter? Pour ce livre, auquel il s'était forcé de donner une conclusion qui ne soit pas cynique, il s'était mis dans une petite indication, ne pas conclure par le pessimisme, conclure par la joie de l'enfantement perpétuel. Eh bien, il va hésiter entre les titres que voici, La misère du monde, La sombre mort, La vallée de larmes, terminant par ce mot La joie de vivre, qui est définitif, qui a l'air d'une dérision au-dessus d'un livre à ce coin sombre. Le deuxième drame de sa vie secrète, c'est celui qui se passe en 88-90, vous voyez, il a 48 ans. Sa femme a engagé chez eux une lingère. Cette petite s'appelle Jeanne Rosereau. Elle a juste 20 ans. C'est la fille d'un meunier de Bourgogne. Elle, 20 ans, Zola, 48 ans. Zola n'avait jusqu'alors jamais trompé sa femme. C'était un homme chaste et qui n'avait peu de fantasmes. Et voilà que tout à coup, il s'aperçoit dans ce printemps 88, il se met à saisir et à aimer cette fille. Et bien, il se démenait tumultant, il ne veut pas céder à la vie. Il avait écrit un livre, Pobouille, que tout le monde connaît, où il montre la monstruosité de l'égoïsme de ces grands bourgeois qui utilisent leur domestique à toute fin. Et bien, c'est une domestique qui est chez elle et qu'il est en train de désirer. Il parlera dans ses notes de séduction bas. Il va résistant qu'il pourra. Elle aussi. Elle s'est mise à l'aimer. Elle avait d'abord une espèce de vénération pour ce monsieur Zola qui était très bon, qui était une immense notoriété. Et peu à peu, elle s'aperçoit qu'effectivement elle l'aime. Et c'est le 11 décembre 88, qui je vous dis la date pour vous montrer à quel point ils ont lutté, puisqu'ils s'aimaient, semble-t-il, du mois d'avril, le 11 décembre 48, qu'elle se donnera à lui. Et bien, il est à la fois heureux et malheureux. Malheureux parce qu'il n'est pas d'accord avec sa conscience, parce que ça l'ennuie de voir que ça, sa femme cache naturellement, mais elle le saura, il a laissé pénible, il lui a fait des promesses, de trop promesses, quoi, il s'est parjuré, il a dit qu'il la reverrait plus, il la revoit. Madame Zola va fracturer un cratère pour essayer de trouver les lettres de son mari, c'est des choses assez affreuses. Puis on a des lettres de Zola à son ami Bruno, et il lui dit, ma pauvre femme, ma pauvre Alexandrine, je ne serai jamais heureux si je la sais malheureuse, cette vie double, ce partage. J'avais rêvé de rendre tout le monde content autour de moi, et je suis le premier frappé. Et comme il avait fait, voyez-vous, avec Berthe, et avec celle qu'il a épousée, Alexandrine, jamais il n'acceptera l'idée d'abandonner quelqu'un dont le corps lui a été donné. Pas question. Jeanne ne la quittera pas. Et même comme une sorte d'excuse, de légitimation à ce qu'il aurait appelé autrefois un péché et qu'il appelle maintenant une faute, il va se dire, au moins si cette femme, si cette fille, me donnait les enfants que ma femme n'aura pu me donner. Dans ce livre autobiographique, le docteur Pascal, qui fera son dernier livre des Rougon-Macquart, il montrera le docteur Pascal, compulsant vers la fin de sa vie, toute son œuvre, ce tas de pages froides qui me glaçaient les mains, dit-il. On appelle ça une œuvre, il n'y a pas d'autre œuvre réelle qu'un enfant. Eh bien, grâce à Jeanne, qu'elle soit bénie, sous ses lèvres, comme il dit, ses tièdes cheveux d'enfant à baiser. La petite Denise va naître la première en septembre 89, puis le petit Jacques en septembre 91. Madame Zola aura beaucoup de dignité, je dis même de grandeur dans cette affaire. Elle sait que son mari a ses deux enfants. Elle sait que assez souvent, que tous les jours il va la voir et qu'assez souvent quand il fait beau, Monsieur Zola regarde passer dans la rue les filles qui se promènent avec leur maman. Alors un jour que justement il était là contre sa vitre à regarder les gosses qui passaient, c'était un jour de février, il a senti tout à coup une main sur son épaule, c'était sa femme qui était entrée dans son cabinet de travail, et qu'elle lui a dit, d'une voix probablement un peu étranglée, allons faire les montées. Et dorénavant, elle les verra tous les jeudis. Ceux qu'elle fera bientôt, c'est petit. Et comme il se trouve que Jeanne Roseraud mourra la première en 1914, et que Madame Zola vivra jusqu'en 1925, Madame Zola fera tout ce qu'il faut, du point de vue officiel, pour que les enfants puissent porter le nom de Zola, et ce sera véritablement ses enfants. Cet homme a avancé, cependant, à travers des quantités d'orages. Il avançait parce que les honneurs lui venaient. Il avait été décoré de la Légion d'honneur, chevalier en 88, puis officier en 93, puis président de la Société des gens de lettres en 91. Et même, il avait fait une candidature qui avait fait beaucoup sourire et beaucoup crier. Candidature à l'Académie française à partir de 1990. Vous n'imaginez pas les colères qui sont déchaînées à ce moment-là contre lui. L'amoncellement des caricatures, enfin l'Académie française, recevant M. Zola, ça paraissait un blasphème, une monstruosité. Tous les journaux se divertissaient à ce propos. Il faut comprendre que c'est un homme qui est entouré d'une double fureur. Premièrement, il y a la fureur de la jalousie. Mon Dieu, c'est compréhensible, quoi. Les camarades qui se rendent compte que eux, ils ont des tirages assez moyens. Les tirages de Zola, au contraire, sont astronomiques. Alors ils comparent et ça leur fait pas plaisir. Si bien qu'on voit Barès, par exemple, qui est pourtant intelligent, mais qui, dans un article, exploite le bout de l'oreille en disant, Monsieur Zola est incontestablement une des grosses forces commerciales de la librairie française. Vous avez compris, il y a commercial, ça veut dire c'est un commerçant, mais c'est son talent, c'est chose. Puis je vois les Goncourt, enfin Goncourt, celle qui restait, qui parle de Zola en l'appelant d'une manière raciste, ce sale italianas, bah, tout simplement parce qu'il vendait plus. Bon, mais il y a ça, mais il y a autre chose, il est bien plus grave. Il y a autour de Zola cette exécration en passe de peur. Il dit des choses qu'il ne faut pas dire. Il n'a pas fait carrière par les salons. Il n'a pas avancé comme tout le monde, comme les adroits, comme les intelligents, à la Brunetière ou à la Gilles Lemaître ou à la Barrette. Il n'a pas avancé par les belles dames, par le journalisme brillant. Il a avancé tout seul. Et il n'a pas signé ce pacte non écrit des écrivains bien pensants et qui discutent à l'Académie. Un pacte silent. Il y a deux choses qu'un écrivain convenable ne doit pas faire. Il ne doit pas parler d'une certaine manière de la sexualité et il ne doit pas parler de l'argent. La sexualité, Zola, au contraire, va en parler brutalement. Qu'il exaspère Zola, par exemple, à l'égard de Georges Sand. Georges Sand l'agace beaucoup. C'est que Sand dit à maintes reprises et sans cesse qu'il n'y a pas de plus belle chose et de plus beau péché que l'adultère. Et lui dit, mais l'adultère s'accompagne toujours de mensonges, et le mensonge n'est jamais dit. Et d'autre part, sexualité, oui, on peut bien parler de l'amour dans les romans à condition de lui mettre un voile doré. Mais lui va montrer la peur de l'enfant dont on ne parle jamais dans les livres convenables. Et comme à ce moment-là, il y avait peu de moyens professionnels, il va montrer l'abondance énorme des infanticides dans Paris. Tous les églises de Paris roulent de petits cadavres. Quant à l'argent, l'argent fait avec Zola son entrée de vedette dans la littérature française. Balzac avait parlé de l'argent, mais d'un point de vue d'avoué, si vous voulez. Vous savez, c'est un point de vue de sociologue, Zola. Pour la première fois, on va voir un conseil d'administration au travail. C'est dans l'argent. On va voir, par exemple, le baron Gouraud, qui est baron parce que son grand-père a été fait baron par Napoléon pour avoir vendu des stocks de biscuits avariés à la grande armée. Et lui se vante avec majesté, c'est Zola. On va voir le marquis de Bohun qui utilise son titre de marquis pour capter les capitaux de la bourgeoisie. On va voir monsieur de Robin Chéniaud qui touche 100 000 francs chaque année de primes occultes pour donner son visa sans examen au compte de gestion. On va voir ceux qu'il appelle les entretenus, les Boisgenin, les Grégoire, ceux qui profitent de l'or que des générations d'affamés et crédits ont tiré pour eux de la terre. On va voir un grand mariage, un grand beau mariage splendide, très parisien, à la Madeleine, béni par un évêque, Monseigneur Martin, et à la sacristie, dit de là, on voit défiler ses visages suant les crimes de l'argent. Quand on fasse ça, il va nous montrer, c'est un travail ça, le capitaine Jolivet, c'est un capitaine qui conçoit l'armée comme il faut, une armée à usage interne. Le capitaine Jolivet dit, mais qu'est-ce que c'est que ça, les intellectuels, j'aime pas, moi, les gens à idées. Vous avez vu les idées, vous? Moi, je ne connais que le sabre. Ça, le sabre, on le voit. Heureusement que l'armée est là, dit le capitaine, pour empêcher le passage, le triomphe des coquins. Et aussi, cela nous a montré dans l'Assommoir, l'enfer de la Goutte d'Or et du quartier de la Chapelle. Dans Germinal, l'enfer des mineurs dans un. Dans l'argent, l'enfer de ce bidonville qui s'appelle la cité de Naples. Et on voit son personnage de Paris qui s'appelle l'abbé Pierre Froment, qui revient effaré de cette excursion qu'il a fait dans les quartiers de la misère et du travail, l'univers concentrationnaire des pauvres. Il est allé voir les travailleurs de Ménilmontant et de Montmartre. Et l'abbé Pierre revient en se disant effaré d'avoir découvert sur quelles abominations repose la félicité des Nantes. C'est tout cela, ça équivalait à une espèce d'attentat. On le détestait, voilà, comme un homme infiniment dangereux. On lançait sur lui toutes sortes de calomnies, disant que c'est un homme d'une grande bassesse, d'une grande brutalité. Et il est vrai que dans l'ensemble de son œuvre, il y a des choses très brutales. Pourtant, je voudrais appeler votre attention sur une chose vérifiable, facilement vérifiable. C'est un homme tendre, un homme extraordinairement vulnérable. Si dans son œuvre, il y a peu de scènes poignantes, c'est que lui-même éprouvait une telle peine, ressentait si galamment qu'il écrivait, qu'il essayait d'écarter de son œuvre ce qui aurait pu trop l'émouvoir. Et je voudrais vous parler ici d'une seule preuve. C'est dans l'Assommoir. C'est une scène de l'Assommoir que je ne sais pourquoi le film n'a pas retenu. C'est un beau film, son mariage chez lui est admirable. C'est un film, vous avez peut-être remarqué, qui a perdu son titre. Il est devenu Gervaise, parce qu'il semble qu'il ne fallait pas trop parler de l'Assommoir et de l'alambic, ça pouvait gêner certains intérêts. Alors on en a fait surtout une histoire sentimentale et pas une attaque contre l'alcoolisme. Eh bien, la scène dont je voudrais vous parler, qui n'est pas dans le film, n'était pourtant pas attentatoire aux intérêts des vendeurs d'alcool. Ben voilà cette scène. Vous rappelez que dans le film, Maria Schell reste belle jusqu'à la fin. Eh bien, elle n'est plus belle dans le roman. Au contraire, elle est devenue une énorme femme, encore plus bancale qu'elle n'était au début. Elle se prostitue. Elle est sous le pouvoir de la chapelle. Elle va rencontrer un soir Gouget. Il est dans le film. Vous savez, c'est le forgeron avec une belle barbe. C'était un homme qui l'avait aimé. Elle l'aimait aussi, purement. Jamais il ne s'était touché. Et voilà qu'elle l'aborde. Ils en sont tous les deux commotionnés. Comment elle est tombée là, elle est devenue se prostituée, alors il l'emmène dans sa chambre. Il lui demande qu'elle veut manger. Elle mange en effet gluttonnement de sa famille. Et voilà la scène finale. Voulez-vous encore du pain? Lui demandait-il à mi-voix. Elle pleurait. Elle disait oui, elle disait non, elle ne savait plus. Ah, Seigneur, que c'est bon et triste de manger quand on crève. Elle torchait ses larmes avec le reste au fond du poêlon.
Zola et l'affaire Dreyfus. C'est une histoire terriblement confuse encore, ça devrait être. On s'imagine volontiers que c'est clair, qu'on est entendu, que Dreyfus est un innocent et qu'on a trouvé le coupable qui s'appelle Esterhazy. Je n'en suis pas absolument sûr. Oui, l'innocence de Dreyfus, certainement. Alors voilà comment je vais faire. Je voudrais vous présenter quelques étapes de l'affaire, ce que l'on en sait aujourd'hui, pour voir l'insertion de Zola. Ça commence au mois de septembre 94. C'est en septembre 94 que le SR, le Service français des renseignements, met la main, je mets ça entre guillemets, on ne sait pas trop comment, obtient un document, une lettre qui était non signée, non datée, qui a été prise à l'ambassade d'Allemagne, une lettre qu'avait dû recevoir l'attaché militaire allemand qui s'appelle Schwarzkoppen, j'ai dit bien qu'avait dû recevoir, car tout ça est encore extrêmement confus, une lettre qui énumérait les documents que quelqu'un remettait à l'attaché militaire allemand. Document important pour la défense nationale, il y avait là des histoires d'artillerie, il y avait des notes sur Madagascar, enfin c'était évidemment un signe de trahison. Qui a écrit cette lettre? C'est tout le problème. Alors on réfléchit, on se dit, il y a des questions d'artillerie, donc probablement c'est un officier d'artillerie, d'autre part ce sont des questions très secrètes, alors c'est pas un officier de troupe, c'est quelqu'un qui a dû avoir accès à ces secrets, donc un officier ou bien d'état-major, ou bien qui a fait un stage dans l'état-major, et pendant des semaines on tâtonne. Et voilà que quelqu'un, que Daboville, que le colonel, dit qu'il a trouvé. Il s'agit d'un capitaine juif, qui s'appelait Albert Dreyfus, qui avait été stagiaire à l'état-major, qui était maintenant dans un régiment. Faut pas oublier qu'il y avait à ce moment-là, en France, une grande campagne antisémite et en particulier un journal qui s'appelait La Libre Parole, dirigé par Drummond, qui tenait une rubrique intitulée Les officiers juifs dans l'armée. Alors il paraît qu'il y a une ressemblance entre le fameux bordereau, c'est-à-dire la lettre énumérant les documents livrés, et l'écriture de Dreyfus. On convoque naturellement les experts, ils ne sont pas d'accord. Il y a trois experts qui disent oui, c'est certainement l'écriture de Dreyfus, et deux autres qui disent ah non, ça n'a pas l'air d'être l'écriture de Dreyfus. Et comment on veut faire passer cet homme au conseiller de guerre, toutes les chances, semble-t-il, que devant la mésentente des experts, le conseiller de guerre, faute de preuves, l'acquitte. Alors, le ministre de la guerre, qui était un général, qui s'appelait le général Mercier, commet exactement un crime juridique. Il va remettre au juge militaire, en secret, les documents sur Dreyfus. Crime juridique, parce qu'on n'a pas le droit de commander quelqu'un sans lui montrer sur quoi on le condamne, et en cachant même ses pièces à son avocat. Et c'était maître de Manche, c'était l'avocat de Dreyfus. Cependant, c'est ce qui va se passer. On ne parlera pas au procès même des documents que le ministre de la Guerre a remis, c'est simplement lorsque les juges se sont retirés pour délibérer que, secrètement, on remet au juge ces fameuses pièces secrètes et mystérieuses. Sur le vue de ces pièces, les juges se décident et Dreyfus est condamné à l'unanimité, condamné à la dégradation et à la déportation. La dégradation de Dreyfus a lieu dans des circonstances très dramatiques, comme toute grande dégradation devant 6000 hommes de troupes dans la cour de l'école militaire. Il apparaît là, en grand uniforme, un adjudant lui enlève ses boutons, lui enlève les décorations bien sûr et aussi ses galons, et ce malheureux va être obligé de défiler entre les quatre soldats sables au cœur sur le front des troupes, et quand il défile, il crie d'une voix misérable, éteinte, vive la France, je suis innocent. C'est un homme qui ne payait pas de mine, bref, qui n'attirait pas la sympathie. Un visage assez ingrat, des yeux qu'on voyait mal derrière des lorgnons. Aucune générosité humaine, semblait-il aucun élan qui ne sortait de lui. Tout de même, il y a une chose troublante, c'est qu'on ne comprenait pas pourquoi cet homme aurait bien pu trahir. Étant donné, premièrement, qu'il était alsacien et d'une famille qui avait à dessein quitté l'Allemagne pour l'Alsace pour ne pas rester sous la domination allemande, il était riche par conséquent à 25 000 francs de rente, il n'avait pas besoin de se vendre, qu'il avait une vie absolument rangée, il était marié, deux enfants, un ménage qui s'entendait parfaitement, un homme qui ne sortait pas, qui ne jouait pas, qui n'avait pas de dette, pourquoi avait-il trahi? Cependant, on affirmait que le bordereau était lui, et que d'autre part, ces fameuses pièces secrètes établissaient sa culpabilité. Alors, il est condamné, dégradé et envoyé, comme vous le savez, à la fameuse île du diable, sur les bords de la Guyane. Ce que je viens de vous dire est du 5 janvier 95, la dégradation. Une année plus d'une année se passe. Nous sommes maintenant en mars, avril 96. Le service de renseignement a changé de titulaire. Ce n'est plus le colonel sans R, c'est un lieutenant-colonel qui s'appelle Picard. Ce lieutenant-colonel Picard a entre les mains, obtient, un nouveau papier. Une lettre qui vient dans la salle d'Allemagne, qui est écrite par Schwarzkoppen, l'attaché militaire allemand, ou du moins dicté par lui, et qui porte une suscription, enfin c'est un petit bleu, comme on dit, c'est-à-dire un pneu, enfin une carte pneumatique, envoyée à un certain commandant Esterhazy. Ça intéresse beaucoup, le chef du service de renseignement. Enfin, qu'est-ce que peut bien vouloir cet attaché militaire allemand, Schwarzkoppen, un commandant d'infanterie française qui s'appelle Esterhazy. Picard, comme c'est son devoir, fait faire une enquête sur Esterhazy. Drôle de personnage. Le colonel de son régiment, qui s'appelle le colonel Curé, donne les plus mauvais renseignements sur cet Esterhazy, qu'il appelle, une espèce de Rastaquer. On sait d'autre part qu'il a pratiquement quitté sa femme. Il vit chez une prostituée qui s'appelle la fille Pays. Il y a des histoires misérables d'escroquerie. Ce personnage physiquement n'attire pas la sympathie, certes encore beaucoup moins que Dreyfus. Il a des yeux enfoncés, brûlants, il est paraît-il ravagé tuberculeux, qui est un peu voûté et se regarde volontiers fuir. Enfin, on n'a pas d'autre preuve encore que ce petit bleu, c'est-à-dire cette lettre que lui adresse mystérieusement la régime militaire. Tout de même, c'est bien inquiétant. Et Picard poursuit son enquête. Attention à ceci, jusqu'à présent, Picard n'a pas une seule minute l'idée que l'affaire Dreyfus puisse reparaître. Dreyfus, il est condamné, il est là-bas à son île du diable, il a été justement condamné. Mais il y a Esterhazy qui pourrait être un autre, vous entendez, un nouveau traître dans l'armée française, par chance, coup sur coup, à deux années d'intervalle, deux traîtres dans l'armée française. Et au cours de l'enquête que le colonel Picard poursuit, il a entre les mains de l'écriture d'Esterhazy. Regardant l'écriture d'Esterhazy, il s'aperçoit, il en est suffoqué, enfin, c'est un coup pour lui, que l'écriture d'Esterhazy correspond à l'écriture du bordereau sur laquelle on a condamné Dreyfus. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien entendu, le colonel Picard va exposer l'affaire à ses chefs, Son premier chef direct, c'est le sous-chef de l'état-major de l'armée, général Gons. Et son chef suprême, c'est le chef d'état-major de l'armée, général de Boisdet. Picard est stupéfait de la réponse que lui fait Gons, et ensuite que lui confirme Boisdet. Et même, on l'envoie au ministre, il s'appelle Billot, qui confirmera la position de ces deux généraux. À savoir que, on l'autorise naturellement à poursuivre son enquête sur Esterhazy pour le démasquer si c'est un traître. Mais qu'en aucun cas, il ne doit mêler la question Dreyfus à la question Esterhazy. Absurde! Puisque justement, toute l'affaire, c'est de voir qui a écrit le bordereau et si c'est Dreyfus ou Esterhazy. Alors se développe contre Picard toutes sortes de manœuvres stupéfiantes de la part de l'état-major français. Il décide qu'on l'écartera à Picard, qu'on le dépossédera et qu'on le perdra. On l'écarte. Lui qui est chef du service de renseignement dont la fonction est d'être à Paris, on l'envoie en mission d'abord dans l'Est, puis à peine a-t-il terminé sa mission dans l'Est, dans le Midi, à peine a-t-il terminé à Marseille qu'on l'envoie à Constantine, puis de Constantine au sud tunisien et on le verse finalement dans un régiment de tirailleurs. Donc il est écarté et dépossédé. Mais il y a mieux, on essaye de le perdre. De faux télégrammes lui sont adressés qui seront dans son dossier, des télégrammes tendant à faire croire que c'est lui qui a fabriqué, qui a fait un faux, qui a fabriqué le bordereau. Alors, assez effrayé de tout ce qui se passe, il s'en ouvre à un de ses amis, qui est un avocat, qui s'appelle Leblois. Et Leblois lui-même va trouver un personnage très important à ce moment-là, qui s'appelle Scherer Kessner, qui était vice-président du Sénat, qui était un vieil Alsacien irréprochable, respecté partout. Et Leblois explique à Scherer Kessner tout ce que je viens de vous dire. Scherer dit, mais c'est infiniment grave, après, si on a vraiment découvert l'auteur du bordereau, alors ce monsieur Dreyfus qui est au bagne depuis 2 ans, il ne mérite pas. Scherer Kessner va trouver le président de la République, ça s'appelle Félix Faure, il explique la chose. Le président de la République dit, moi je suis incompétent, irresponsabilité, allez voir le ministre de la Guerre. Scherer va voir Billot, qui tutoyait le ministre de la Guerre, et lui dit, il faut reprendre l'affaire. Et à ce moment-là, Billot hésite, ne dit ni oui ni non. Et Scherer Kessner lui dit, vous savez, attention, voyons, attention. Si ce n'est pas l'armée elle-même qui prend l'initiative de la révision de cette affaire Dreyfus, ça va se savoir avant le public. La famille Dreyfus, qui n'a jamais voulu croire à la culpabilité d'Alfred Dreyfus, va alarmer l'opinion publique, alerter l'opinion publique, et c'est l'armée qui se trouve dans un très mauvais état. C'est à ce moment-là que Zola va intervenir dans l'affaire. Zola, en 94, était à Rome, en train de préparer son livre sur Rome. Il avait simplement lu, comme tout le monde, dans les journaux, ce qui s'était passé, et ça n'avait pas particulièrement frappé. Il a écrit un livre et une idée, voilà, un article de français qui était une trahison. En revanche, j'étais un peu intéressé à l'affaire de la dégradation parce qu'il déjeunait ce jour-là, 5 janvier 95, chez Alphonse Daudet. Et Léon Daudet, le fils d'Alphonse, qui est devenu très célèbre comme politique, était allé voir cette dégradation. Alors il rentre vers minuit et demi et il raconte à son père, à Tade et à Zola qui était là, ce qu'il a vu. Et Zola est intéressé, mais comment dirais-je, d'un point de vue plutôt esthétique, en disant oh oui, ça serait une scène admirable, fatiguée à raconter dans un roman. Mais ça m'occupe beaucoup. Alors voilà justement qu'à l'automne 97, Scherer Kessner, Leblois, enfin tous ceux qui ont appris la vérité par Picard, viennent le trouver. Elle lui dit d'un homme comme vous, avec l'audience qu'il a, s'il nous aide à alerter l'opinion sur ce drame, peut se faire entendre. Et cela s'y intéresse en effet beaucoup. Et je voudrais vous faire remarquer qu'il y va sans violence, sans passion. Il est convaincu qu'il n'y aura pas, pour ainsi dire, d'affaire récite, que c'est tout simple, puisqu'on a découvert qu'elle était le coupable, etc. Il va forcément, ce coupable, être traduit en justice militaire, en passant dans la consigne de guerre. Alors on le condamnera, puisqu'on a contre lui toutes sortes de preuves, sans mode d'écriture, le petit bleu, etc. Et dès qu'il sera condamné, naturellement, Dreyfus sera libéré. Alors les deux premiers articles que Zola publie sur l'affaire sont des articles parfaitement calmes et tranquilles. Le premier s'appelle justement Scherer Kessner, sans plus. C'est un article qu'il a donné au Figaro le 25 novembre 1997. Et il l'a intitulé Scherer Kessner pour dire au public français, voyez-vous, si un homme comme Scherer Kessner, un homme âgé, n'a plus d'ambition, qui est universellement et légitimement respecté, a pris position, vous pouvez lui faire confiance. C'est un homme insoupçonnable du point de vue du patriotisme et qu'aucune passion ne peut dire. Et comme les journaux nationalistes ont inventé à ce moment-là la parade de l'invention d'un syndicat avec un S majuscule, Drummond a publié un article tonitruant là-dessus dans sa libre parole, Le Syndicat. Le syndicat, ça serait, paraît-il, la juiverie internationale qui a amassé l'or des 30, des 40 millions pour acheter les consciences en faveur du traître Dreyfus. Ben, Zola répond, oh, en violence, en souriant même. L'article s'appelle justement Le Syndicat, 1er décembre 97, dans le Figaro. Il dit, mais oui, mais bien sûr, t'as entendu, il y a un syndicat. C'est le syndicat de tous les hommes de bonne volonté, j'en suis, et tous les braves Français de France en seront comme moi. Donc, on est convaincus. Esterhazy passant en jugement, l'affaire est liquidée. Eh bien, vous savez ce qui va se passer, c'était l'état-major même qui avait dit à Esterhazy, mais demandez donc à passer en jugement, vous ne craignez rien. Le conseil de guerre est une espèce de plaisanterie qui se déroule le 10 et 11 janvier 98. Effectivement, tout de suite, Esterhazy est renvoyé, acquitté, blanc comme neige. C'est un coup de massue pour les amis de Dreyfus. Seul, Zola reste debout et prend à ce moment-là une décision dont je voudrais vous faire comprendre le mouvement intérieur. Il s'était gardé, depuis toujours, de l'engagement politique. C'était quelqu'un qui redoutait la mêlée. Il avait écrit l'Assommoir, alors des écrivains socialistes s'étaient approchés de lui en lui disant « Mais rejoignez nos rangs, enfin, passez au socialisme. » Mais il s'était défendu, il avait dit « Je verbalise seulement. » Vous voyez quoi, je dresse un procès verbal, je fais un constat. Mais je ne conclue pas, parce que selon moi, la conclusion n'appartient pas à l'artiste. C'était une manière de retrouver la vieille doctrine de l'art pour l'art, quoi. C'est pas mon affaire. En 85, avec Germinal, il avait fait un pas de plus. Germinal est une mise en accusation, non pas de l'alcoolisme, mais de l'ordre social même. Et il avait été loin, parce que dans un journal, il avait fait la déclaration que voici, oui, j'ai voulu pousser un tel cri de pitié et de justice que la France cesse de se laisser dévorer. Ça, c'est un engagement. Et bien, comme s'il avait peur de ce qu'il avait fait, il avait fait une marche arrière après. Regardez par exemple dans l'Affaire qui est 87 ou dans la Débarque qui est 92, chaque fois qu'il met là un personnage de socialiste, l'un s'appelle Canon dans l'Affaire, l'autre s'appelle Chuteau dans la Débarque, ce sont des personnages réfugiés. D'autre part, Zola n'aime pas les politiciens. Il l'a fait dire par son personnage de Souvarine dans Germinal, les politiciens, ce sont des gens qui s'enrichissent à faire des phrases. Oui, attendu, mais seulement cette fois, il ne s'agit pas de politique. Oh, j'entends bien que Maurice Barrès, dans ses cahiers, s'applique à dire que l'affaire Dreyfus, après tout, n'est qu'une historiette, je trouve que le mot est une trouvaille, une historiette qui n'a, dit-il, que l'intérêt grossier d'un roman feuilleton. Pour cela, non, c'est autre chose. Et il écrit, donnant à chaque syllabe son poids, c'est l'histoire d'un juif crucifié, une espèce de toxin à le sommet en lui. Pas d'homme qui soit plus mal préparé que lui à la bataille politique. Le docteur Toulouse avait publié sur lui, pour cela, en 96, donc 2 ans avant le moment où nous sommes, un drôle de livre, une espèce d'analyse psychomédicale du cas Zola. Et Zola avait accepté ça très gentiment, il avait même fait une préface pour lui. Ce livre ne disait pas des choses agréables sur lui. Il disait qu'il était un homme d'une sensibilité morbide, avec des manifestations excessives et maladives, révélant que, par exemple, Zola avait peur, physiquement peur, de la foule. Qu'il avait peur, physiquement peur, de l'orage. Que quand il y avait les éclairs et les tonnerres, il s'enfermait chez lui, il devait fermer toutes les fenêtres, c'était une sage précaution, mais faisait allumer l'électricité, se mettait un bandeau sous les yeux. Un homme qui est incapable d'avoir du sang-froid dans la discussion. Il n'a pas de présence d'esprit. D'autre part, il ne sait pas non plus parler en public. Lorsqu'il a été président de la Société des gens de lettres, il a été obligé, bien entendu, de par ses fonctions de prononcer des discours. Ses discours sont pitoyables. Il n'a aucune invention verbale, il lit tout. D'autre part, comme il est très myope, il lit en mettant ses dictatrices devant son nez, et il fait des lapsus tout le temps. Enfin, les gens en rient quand de la part. Eh bien, s'il va s'engager dans l'affaire Dreyfus, c'est une mauvaise conscience étant lui. Tâchons de bien comprendre. Premièrement, quand il s'est présenté à l'Académie française, ses camarades de départ, ceux qu'on appelait les amis des soirées de Médan, n'avaient pas beaucoup aimé ça. On avait dit quoi? Alors, il y a deux Zola, c'est CA qui l'a déjà fait. Il y a deux Zola, il y avait un Zola provisoire autrefois qui feignait de ne pas aimer les honneurs, et puis, il y a le vrai Zola maintenant qui est arrivé, qui va encore plus arriver et s'installer dans le monde. Il avait faim de hausser les épaules, de prendre pas ça au tragique, mais ça l'ennuyait. Deuxièmement, il s'est dit, je ne veux pas me mêler de pousser à une révolution sociale, parce qu'une révolution, il y a toujours du sang répandu, des violences, et je ne veux pas, moi, avoir sur les mains du sang. Bon, c'était vrai, c'était noble. Zola était quelqu'un qui avait vu la Commune, qui avait vu Paris en feu au mois de mai 71. Et ça l'avait laissé terrifier. Mais en même temps, quand il réfléchit, il s'aperçoit que cette responsabilité dont il parle se mêle beaucoup dans sa pensée à sa tranquillité. Il veut pas de responsabilité, mais il veut aussi être tranquille dans son coin, dans ses coussins, dans sa belle maison, à être réunis tranquillement, tranquillement. Troisièmement, il accuse les politiciens d'être des gens qui s'enrichissent en vendant des phrases. Lui aussi. Il s'est pas enrichi justement en vendant des phrases. Et quelles phrases? Beaucoup de choses brutales, terribles à effectuer dans ses livres. Oh, je sais bien que toujours il disait que ce qu'il voulait faire, c'était d'inspirer l'horreur du mal en le décrivant. C'est un très vieil artifice, vous savez, je me rappelle de voir Trébillon, siècle précédent, Trébillon fils, qui se spécialisait dans la littérature pornographique, ben, il avait soin de mettre, au début de chacun de ses livres, une préface paratonnerre, où il expliquait aux gens que s'il décrivait des choses épouvantables, c'était pour inspirer l'horreur du vice et l'amour de la vertu. Vraiment, est-ce que Zola pouvait croire avec honnêteté que si des légions de Français se précipitaient sur ses bouquins, c'était pour favoriser en eux la vertu? Et enfin, quand on descend encore plus dans le secret de son cœur, depuis 1888, Zola est un homme qui vit en mauvaise intelligence avec lui-même, parce qu'il a cette vie double, parce qu'il vit dans cette adultère qu'il a condamné. Alors, s'il prend le départ en 1988, s'il fait ce qu'il va faire, se risquant à fond, c'est précisément parce que c'est coûteux. On dira de lui, il a cherché la règle là-bas, c'est justement le contraire, ça y est. Parce que s'il avait été un peu gentil, s'il n'avait pas pris cette position-là, s'il n'avait pas attaqué l'état-major, mais il y était sûr d'entrer à l'Académie française. Il avait déjà 11 voix à la dernière élection. Avec un peu de gentillesse, il y entrait. En prenant la position qu'il va prendre, il casse les reins à sa candidature académique. Il le sait, il est d'accord. D'autre part, 98% de l'opinion publique en France est convaincue de Dreyfus est coupable. Toucher à l'état-major, c'est un blasphème, c'est un scandale. Il va perdre une partie de sa clientèle. Plus encore, il y a des gens déchaînés dans Paris. Il y a des tueurs que l'antisémite Guérin a fait venir d'Alger. Ils crient à mort, Zola. Zola, c'est sérieux. C'est afin de risquer un coup de couteau, un coup de revolver. Ben, va pour le coup de couteau, le coup de revolver. Zola s'engage précisément parce qu'il y a un risque pour faire au moins une fois dans sa vie quelque chose d'absolument propre. Ce que Zola va faire, il faut bien s'en rendre compte, ça n'est pas une opération polémique, une opération stratégique. Voilà le raisonnement qu'il a fait. Il s'est dit, c'est couru maintenant, c'est vu. Tant que l'affaire restera entre les mains des tribunaux militaires, tant que l'état-major pourra étouffer cette affaire dans la nuit de ces tribunaux de privilèges, et bien c'est fini, on n'obtiendra rien. Il s'agit donc d'obtenir, par effraction, d'amener cette affaire devant un tribunal civil. Et pour ça, c'est lui-même qui l'a frappé. À savoir qu'il va attaquer directement et nommément les généraux, afin de se mettre sous le coup des articles 30 et 31 de la loi sur la presse, et de se faire traîner en justice, mais lui civil devant la justice civile, et par conséquent devant la cour d'assises, il pourra dire ce qu'il est interdit de dire devant les tribunaux militaires. C'est pourquoi il va lancer son fameux article, lettre au président de la République, dont Clémenceau, vous le savez, va changer le titre, l'appelant J'accuse, où il accusera nommément, j'accuse le général de Boisdeppe, j'accuse le général Gonf, j'accuse le premier conseil de guerre, j'accuse le second conseil de guerre, celui qui avait acquitté Terrazzi, d'avoir acquitté par ordre un coupable. Le gouvernement et l'état-major sont extrêmement humiliés, puisque précisément Zola fait ce qu'on ne devait pas faire. Il va parler de ce que l'on ne devait pas dire. Alors pendant 5 ou 6 jours, on décide de faire comme s'il n'avait rien dit. Ce qui était tout de même désagréable pour les généraux qui venaient d'être bafoués par lui et qui faisaient semblant de ne pas avoir senti le coup. Comme l'opinion publique n'acceptera pas ça, on trouve enfin un biais. Comme Zola a dit dans son texte, j'accuse le second conseil de guerre d'avoir par ordre acquitté un coupable, c'est sur ces mots par ordre qu'on va tâcher de le coincer. On lui fera un procès, la plainte ne portera que là-dessus, sur ces mots par ordre, parce qu'on est sûr qu'on le tient. On lui demandera de prouver que le conseil de guerre a acquitté par ordre. Naturellement, les généraux n'ont pas eu l'enfantillage de donner un ordre écrit que l'on puisse produire, un ordre écrit au conseil de guerre d'acquitter. Alors on tiendra Zola en lui disant, mais faites-en la preuve, il ne peut pas la faire. Si bien que ce procès se déroulera d'une manière absurde, toutes les fois qu'on essaiera de parler du fond, c'est-à-dire de la question de Dreyfus ou de la question de Terrazzi, chaque fois le président, qui s'appelait Delgorgue, va intervenir en disant « la question ne sera pas posée ». Le résultat sera obtenu, Zola sera condamné au maximum, c'est-à-dire 3000 francs d'amende et un an de prison. Vous savez la suite, Zola qui va à ce moment-là passer en Angleterre, et c'est en Angleterre qu'il entendra le retentissement de ces deux énormes coups de tonnerre qui vont ébranler la France et même le monde, parce que le monde passionnait pour cette affaire, le coup de tonnerre du 30 août 1898, le colonel Henri, chef du service de renseignement, avoue, devant le ministre de la guerre Cavaignac, avoue qu'il a fabriqué lui-même la pièce capitale qui établissait, paraît-il, la culpabilité de Dreyfus. Il a fait un faux de ça. Et le lendemain, 31 août, second coup de tonnerre, pire que le premier, le colonel Henri avait été mis naturellement aux arrêts de rigueur au Mont-Valérien à la suite de son aveu, et ce 31 août, dans sa cellule du Mont-Valérien, on le trouve la gorge ouverte. Bien entendu, c'est la révision du procès qui s'impose, puisque le document capital contre Dreyfus n'existe plus. Mais révision du procès, c'est de nouveau Dreyfus passant devant un tribunal militaire, et c'est le conseil de guerre de Rennes qui va juger Dreyfus et condamné à nouveau Dreyfus innocent. Seulement comme l'opinion publique cette fois est alarmée, et que tout le monde, ou presque tout le monde, comprend que Dreyfus est un innocent, il y aura cette chose absurde que le conseil de guerre va le condamner à des circonstances atténuantes, afin de préparer cette grâce déjà prévue, grâce que le président de la République va donner à Dreyfus, ce qui est d'ailleurs monstrueux, parce que on ne gracie pas un traître qui peut être pas après son crime, et on gracie encore moins un innocent. Mais l'idée de la grâce, c'était pour préparer une amnistie générale, c'était la grande pensée du nouveau ministre de la guerre, encore un général qui s'appelait Gallifet. Gallifet s'était dit, l'affaire est très très mauvaise pour l'armée, bien entendu qu'on va la reconnaître, innocent pour des fuites. Alors on cherchera les vrais coupables, et ceux qui ont couvert le coupable, et par conséquent il faut qu'on n'en parle plus, amnistie. Amnistie non seulement pour Dreyfus lui-même, mais pour tout fait connexe, dit le texte, tout fait connexe à l'affaire Dreyfus. Autrement dit, lorsque Dreyfus sera réhabilité, les vrais coupables seront couverts par l'ami. Ben, Zola assistera à ça, il ne verra pas Dreyfus réhabilité, puisque Dreyfus le sera en 1906, et que Zola va mourir en 1902. Le déchaînement des haines contre cet homme à cause de la position qu'il avait prise est inimaginable. C'est un crépitement de brasier. Il n'y a qu'à regarder les fameuses caricatures, enfin si nombreuses que nous avons des journaux de l'époque contre Zola, elles sont atroces, enfin ces caricatures qui inlassablement le représentent avec un pot de chambre dans une main, avec une autre main derrière, le dos recevant des sacs d'or des Juifs ou de l'Allemagne, un Zola traîné dans la boue parce qu'il a parlé pour la vérité. On criait en effet à mort Zola, on ne se contentait pas de crier à mort, il fallait que la police le protégeât. Là, la comtesse de Martel, qui se faisait appeler Gip en littérature, qui spécialisait par l'agression permanente, presque quotidienne, contre Zola, qu'elle appelait Zola la honte, Zola l'italien, Zola le souteneur, Zola la débat. Et la petite Denise, qui avait à ce moment-là 9 ans, nous racontera dans le très beau livre qu'elle a fait sur son père, qu'elle avait reçu une lettre à son nom, Denise Zola. Qu'elle avait ouvert la lettre, qu'elle avait trouvé dans l'enveloppe une photographie de son père, dont on avait crevé les yeux. Peggy, il ne s'intéressa pas beaucoup jusqu'à l'heure à Zola, Peggy a voulu le voir. Il est allé le voir, il lui a demandé un rendez-vous au lendemain de l'affaire J'accuse, parce que, comme il le dit dans son texte, il voulait avoir cette impression du face-à-face, que rien jamais ne remplace. Il voulait avoir devant lui l'homme qui avait fait ce qu'il avait fait. Elle est très belle, la description est très simple, la description que Peggy nous apporte de Zola. Cet homme dit-il là, c'est petit, peu volumineux, l'arçu, un peu frileux, qui avait l'air d'un vieux paysan, avec ce visage triste et bon qui était le sien. Des traits, dit-il, tirés et comme retirés vers les dents. Banville, pas Banville, hein, Banville, j'adore de Banville. En 1974, ce mot-code Zola disait, c'est un homme qui a toujours l'air de n'en parvenir. Il est impressionné par toute chose comme le serait un sauvage ou un enfant. Eh bien, Peggy va reprendre, sans savoir qu'il va reprendre, ce mot de bandit. C'était 74, le mot de bandit, et c'est en 98 que Peggy écrit ce que je veux dire. Elle dit ce qui me frappe, quand je regarde, quand j'écoute cela, ce qui me frappe, c'est l'extraordinaire fraîcheur de cet homme qui n'est plus jeune, il a 58 ans. Fraîcheur, il y a chez lui à s'étonner encore aujourd'hui de ce qu'on fait de belle, de laid, de mauvais. C'est vrai, vous savez, si vous reprenez ce premier livre de Zola, enfin le second livre plutôt, cette confession de Claude dont je parlais dans mon premier entretien, c'était justement l'histoire de quelqu'un qui s'étonne, quelqu'un qui n'en revient pas. C'est cet étudiant d'une province qui est à Paris, et qui s'étonne avec horreur, qui se scandalise de ce qu'il voit dans Paris. Et il dit dans son livre, oui, combien sommes-nous là, peut-être 2, 3 jeunes gens curieux, à nous sentir crever le cœur au spectacle des abominations. Les autres hommes, quoi, les autres, ils vivent tranquilles, infâmes et souriants. Et il ajoutait, je resterai peut-être toujours un enfant. Il disait ça à 25 ans. Et à 53 ans, lorsqu'il écrit son Docteur Pascal, c'est le dernier ouvrage de la série de Bourbon-Macquart, où chacun sait que le Docteur Pascal, à plusieurs reprises, il dit que, qui te rappelle quand on s'approchait de Docteur Pascal et qu'on le regardait, c'était justement ses yeux. Ses yeux qui avaient gardé justement la vieillesse. Une espèce d'enfance. Il ne faut pas oublier que Zola a été longtemps un enfant chrétien, même un adolescent chrétien. On a une lettre de lui à 20 ans, 10 août 1860, donc il a 20 ans, hein, 20 ans, à Paris. Et il lui fait une espèce de profession de foi. Et il lui dit, tu veux savoir que je crois, je vais te dire, je crois en un Dieu tout puissant et juste. Je pense que ce Dieu m'a créé, qui me dirige et qui m'attend. Puis il arrivera à de là ce qui arrivait à presque tous les jeunes gens de cette époque. Ils vivaient dans cette atmosphère de matérialisme et d'éternisme. Les maîtres à penser de ce temps s'appelaient Littré, s'appelaient Taine, s'appelaient Renan. Et Zola, Zola c'est quelqu'un qui n'est même pas bachelier, qui a en lui une espèce de simplicité et d'humilité. Il se dit tout ce que j'ai cru dans mon enfance. Mais les maîtres me prouvent que tout ça, c'est de la puérilité, c'est des illusions. Et Zola va perdre cette croyance qu'il a vécu longtemps. On va même lui voir une espèce d'allégresse dans cette condition nouvelle. Il n'y a rien, que tout n'est que rêve et illusion. Je vois dans un texte de 79 où il dit, parlant des crédules, « Nous vidons leur ciel, nous nions leur bon Dieu. » Ça, c'est 79. Dans 80, son ton a changé. Pourquoi? À cause de la mort de sa mère. Il a fait là cette découverte terrible du néant. C'est donc vrai, alors que ce que l'on a aimé sur la terre, on ne le retrouve nulle part. C'est pourquoi dès lors on parlera toujours de son amère certitude. Certitude bien entendu, certitude, oui, il n'y a rien. Mais amère certitude. Et en même temps, et là-dessus j'insiste, et en même temps cet homme a perpétuellement le sentiment d'une convocation qui lui serait personnellement adressée. Voyez-vous, quand il avait 20 ans, admettons que ce soit un gamin, il écrivait à bas ceci, « Soyons apôtres ». Puis c'est l'année suivante, je crois qu'il dit, tout cœur généreux ne se sent-il pas attiré vers le ciel? Ben maintenant, s'il n'emploie plus ce vocabulaire d'apôtre et de ciel, il a tout de même cette conviction que quelque chose lui est demandé. On lui demandera compte de la sainte étincelle. Mais que dire aux gens? Il avait raté avec sa petite verte. Quand il la tenait là contre lui dans le lit, il essayait de lui expliquer ce qui était bien, ce qui était mal. Si j'avais eu, dit-il, si j'avais eu le sentiment d'un paradis humain, lui proposait, mais pas ce qu'il dit. Maintenant qu'il a inventé ce personnage de l'abbé Pierre Froment, un prêtre qui perd la foi et qui cherche que mettre à la place de cette foi, on voit Pierre Froment divisé, ravagé, disant quelle foi semer dans leur esprit. Convocation, eh bien, il y répondra à sa convocation, même s'il ne sait pas au juste que dire. Justice, bonté, il faut qu'il y aille. Tant pis, dit-il, allons, en avant, même dans la nuit. Dieu, il n'acceptera plus qu'on le questionne là-dessus. Il ne veut pas se déclarer athée, et il ne veut pas non plus se déclarer croyant. Je vois une scène dans la joie de vivre, qui est visiblement prise sur le vif. Il y a là l'abbé Hurter, un bon brave homme de prêtre. Il y a M. Chanteau, qui est le personnage principal de la joie de vivre. Et puis il y a un docteur, qui s'appelle le docteur Cazenove, et visiblement Zola est derrière. Alors dans une discussion, l'abbé sanglore avec méchant dit, par exemple le docteur, qui ne croit pas en Dieu. Alors Cazenove l'interrompt avec une espèce de brusquerie, qui vous a dit que je ne crois pas en Dieu? Et la science, dit Zola, la science à laquelle il faut s'attacher, la seule chose que nous connaissions d'un peu sûr, cette science, mon Dieu, peut-être qu'elle arrivera à déboucher sur une vérité transfigurante. Il y a des textes de Zola là-dessus, étranges, je vous assure. Zola a le sentiment que si le savant arrive à percevoir ce qu'est la matière même, il n'est pas sûr qu'il ne découvrira pas que cette matière est quelque chose d'elle-même, vivante comme une force, comme une vibration, et peut-être comme un esprit. Il y a un texte de lui que je voudrais vous apporter, qui est tout à fait la fin de sa vie. Où il dit ceci exactement, la raison. Ah oui, c'est la grande fierté. La dignité même de vivre. Mais il y a l'amour, la bonté, qui est la toute puissance. L'unique bien à reconquérir quand on l'a fait. En 81, on avait publié des poèmes que Zola écrivait quand il avait 16-18 ans. C'était des poèmes pleins de foi. On va voir un qui commence comme ça. Ô toi, Seigneur, d'amour, de vie et d'espérance, toi qui, dans mon être, ce futur dont l'ardeur me rapproche de toi. Alors, bien entendu, maintenant, les ennemis de Zola utilisaient ces textes-là pour se moquer de lui et dire, voilà d'où il vient. Et maintenant, Dieu sait s'il est différent. Alors, dans la préface de 96, au livre du docteur Toulouse, dont je vous parlais il y a un instant, Zola va dire exactement ceci. Ceux qui s'imaginent que mon passé me gêne se trompent bien. Car ce que je voulais alors, je le veux toujours. Et c'est à peine si mes moyens ont changé. Il y avait un personnage de la confession de Claude qui s'appelle Jacques. C'est le personnage de l'étudiant tranquille, installé, pas de problème, et qui se moque de Claude à cause de tous ses drames, toutes ses angoisses. Et Jacques disait à Claude, « Voici mon pauvre Claude, tu aimes ce qui n'existe pas. » Il vient de là garder ça longtemps dans son esprit. Et il va y répondre lui-même, y répondre comme il pourra 23 ans plus tard, dans le rêve. C'est un livre qu'on a beaucoup blâmé en disant qu'il l'avait fait bleu et rose afin de se présenter mieux à l'Académie française au passage. Je connais maintenant le secret du rêve. C'est comme un adieu poignant à tout ce qu'il appelait autrefois les espérances du rêve. Et quand il me dit que ce sont simplement, en effet, des rêves. Eh bien, au centre du rêve, de la petite histoire qu'il est. Le personnage principal, qui s'appelle Félicien, aime cette jeune fille, qui s'appelle Angélique. Et il l'aime. Et Félicien, une nuit, est venu la retrouver dans sa chambre. Je l'enlève. Et elle l'aime, vous savez. Elle l'aime de tout son cœur et de tout son corps. Elle est prête à suivre ce garçon. Pourtant, elle sent que c'est une transgression qu'il ne faut pas qu'elle le fasse. Alors Félicien lui dit, se penchant sur elle, « Angélique, oui, je suis ce qui existe. Et vous me sacrifiez pour des rêves ?» La petite lui dit simplement, « Des rêves, vous croyez ?» Mais elle rêve. Et Zola va ajouter sa joie, qui est devenue d'obéir. Et bien lui aussi, Zola, c'est quelqu'un dont la joie est devenue d'obéir. Quelqu'un qui essaye de faire de son mieux ce qu'on lui demande de faire, c'est-à-dire d'être un brave homme, de bien travailler. À la fin de sa vie, on a un homme devant nous qui boucle sa boucle. Voyez-vous, quand il s'est dressé tout debout en 98, l'affaire Dreyfus m'a rendu meilleur, dira-t-il. Et en effet, il se met à entreprendre cette année-là, 98, ce dernier travail, cet énorme bouquin de ses quatre gros livres, la tétralogie des quatre évangiles, et la mort l'empêchera d'écrire le quatrième. Il boucle sa boucle, parce qu'autrefois, quand il hésitait sur ce qu'il devait écrire, il disait qu'il y avait d'un côté la satire et de l'autre le cantique. Il aura fait toute sa vie de la satire, c'est-à-dire montrant violemment ce qu'est le mal. Et maintenant, il va essayer de faire du cantique. Et il le dit dans ses notes de travail des quatre évangiles. Et il me dit, ce que je veux écrire, c'est un cantique de tendresse et de charité. Ce sont presque les mêmes mots qu'il employait pour ses contaminants d'autrefois. Les quatre évangiles dans son œuvre, c'est comme l'invasion des tortues. Est-ce que vous avez remarqué qu'il y a trois livres de lui qui se termine par l'image de quelqu'un qui est sur une route et qui marche? C'est Madame Hamelin qui marche à la fin de l'Arsène. C'est Étienne Lantier qui marche à la fin de Germinal. C'est Jean Macquart qui marche à la fin de la débâcle. Et ce que Zola essaye de leur chanter, c'est comme un chant du départ qui leur fredonne dans la nuit. Ils avancent, on ne sait vers où, ils avancent le cœur confiant. Le soleil n'est pas encore là, mais on sait bien qu'il se lèvera.